Bonjour, c'est Diane, enchanteresse en santé. Bienvenue dans le podcast dédié à la santé intégrative créative pour les entrepreneurs qui prennent autant soin des autres que d'elles-mêmes. En tant qu'ostéopathe, aroma olfactothérapeute et coach de vie pro et perso, je serai votre guide facétieuse et enjouée. Je vous invite chaque semaine à explorer et voyager à mes côtés. Nous irons à la découverte de nouvelles contrées, au cœur desquelles il fait bon vivre et oser se réaliser. Allons-y ! Embarquons ensemble dans de fantastiques aventures enchantées où bien-être et magie s'associent pour agrandir notre champ des possibles. Bonjour Amandine !
Bonjour Diane !
Bienvenue dans le podcast Diane Enchanteresse en Santé. Aujourd'hui, je reçois Amandine Donzé, qui est Love Coach ou Coach en Intelligence Amoureuse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Alors, moi, je préfère effectivement le Coach en Intelligence Amoureuse que Love Coach. Pour moi, Coach en Intelligence Amoureuse, bah, ça fait ressortir ce côté, en fait, intelligence, dans le sens où on a, je pense, tous des trucs à apprendre sur la relation de couple, comment ça fonctionne, etc. Parce que c'est des choses qu'on ne nous apprend pas dans notre éducation, quand on est enfant, à l'école, tout ça. Donc, ce n'est pas la seule chose que je transmets dans mes accompagnements, mais effectivement, il y a aussi une partie sur ce que j'appelle les dynamiques amoureuses, apprendre comment ça fonctionne. Et puis voilà, il y a d'autres aspects aussi à mes accompagnements, mais voilà ce que ça veut dire pour moi, coach en intelligence amoureuse.
Et à qui tu t'adresses dans ta sphère pro ?
Alors, principalement aux femmes. Principalement aux femmes qui souhaitent être dans une relation amoureuse épanouissante et qui n'y ont pas forcément réussi jusque-là. Et il y a toute une partie qui est importante pour moi sur l'exploration de ce que j'appelle leur magie intérieure. Parce que parfois, il y a tout un parcours et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu personnellement, où je ne me suis pas forcément autorisée à être moi pendant toute une partie de ma vie et de mes relations amoureuses, du coup. Et j'ai vu dans quel genre d'impasse ça pouvait me mettre. Donc voilà, c'est hyper important pour moi d'axer là-dessus.
Et là, tu me fais un pont royal pour parler de notre thématique, de la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, qui est l'authenticité et la vulnérabilité. Ça veut dire quoi, être authentique ?
Alors, on pourra en parler sans doute pendant très très longtemps, mais selon moi, être authentique, c'est se montrer le plus vrai possible. Et je pense que, en fait, être authentique, c'est essayer de se regarder d'abord vraiment soi-même, parce que ça me semble compliqué de pouvoir être authentique avec l'autre si on n'est pas d'accord de se regarder vraiment soi, pour commencer.
Se regarder, se voir, chercher à se comprendre.
Exactement.
C'est peut-être lâcher une partie de masque, d'histoire qu'on se raconte ou qu'on a l'impression que les autres racontent de nous et il faudrait coller à ça. C'est un peu tout ça qui se joue avec l'authenticité.
Ouais, ça résonne énormément sur, sur mon propre parcours, en fait. Sur le moment où je me suis rendu compte à quel point je cherchais à être ce qu'on attendait de moi, ou ce que je croyais qu'on attendait de moi, en tout cas. Et jusqu'au moment où ça a été vraiment assez difficile à vivre, dans le sens où, qui étais-je en vrai ? Donc, ouais, comme tu dis, enlever les masques, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, et peut-être d'autant plus, enfin, particulièrement, même sur les choses qu'on n'aime pas en général regarder chez soi, qu'on peut appeler nos ombres, par exemple. Je pense que c'est important. Donc, on parle de connaissance de soi, en fait, pour commencer.
Pouvoir accepter déjà de voir la grande image, tout ce qu'on peut être, toutes ses facettes, celles qui ont l'air super chouettes, lumineuses, et celles qui seraient un peu moins reluisantes, qu'on n'aime pas trop, et qu'on pourrait peut-être avoir tendance à pointer du doigt chez les autres, mais pas voir pour soi. Ça arrive souvent.
C'est assez classique, effectivement, y compris dans le couple.
Oui, à la source des engueulades, ouais. Des grands pans de vérité, déjà sur soi, dans ce qu'on balance à l'autre.
Exactement.
Donc l'authenticité dans la relation à soi et dans la relation à l'autre. Déjà, ça passe par de la connaissance, de la compréhension, de l'accueil. Qu'est-ce que ça revêt en fait? Qu'est-ce qui va avec l'authenticité pour toi?
La vulnérabilité, je dirais. Parce que, effectivement, savoir se montrer authentique dans tout, dans un maximum de choses, parce que j'ai envie de dire, est-ce qu'on se montre vraiment authentique tout le temps dans tout? Je pense qu'on a tous quand même des systèmes de protection, des choses, et que c'est pas toujours évident de les lâcher.
Et en plus, ça peut être OK de pas tout montrer. On n'est pas obligé d'être la totalité de toutes ces facettes, tout le temps, en toutes circonstances. Non, on peut composer.
Ouais, alors ça, c'est carrément vrai. Je pense qu'on peut choisir aussi qu'est-ce qu'on a envie de montrer, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de montrer, quel est entre guillemets, le masque peut-être qu'on a envie de porter dans telle ou telle situation ou avec telle ou telle personne. Mais c'est un choix. En tout cas, selon moi, c'est là que, comment dire, c'est là que ça change tout. C'est que si je suis consciente des masques que je peux porter, je peux choisir de les porter quand j'ai envie de les porter et je les subis pas, j'ai envie de dire.
Et c'est pas tant un masque pour se cacher, c'est une facette qu'on accepte d'incarner pleinement.
Oui.
Et qui peut peut-être correspondre à, bon c'est mon dada, mais une figure archétypale, mais dans laquelle on va montrer pleinement qui on est avec ses singularités.
On est comme des boules à facettes, en fait.
Soirée disco.
J'aime bien, ça brille et tout, donc c'est plutôt chouette la boule à facettes.
Ça renvoie plein de couleurs, ça envoie de la lumière, des ombres, des jeux avec tout ça. Magnifique image, la boule à facettes. Et donc, je suis partie ailleurs, mais tu me parlais du fait que ça se combine à la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est souvent quelque chose qu'on appréhende, qu'on n'aimerait pas trop vivre. Qu'est-ce qui est chouette, en fait, avec la vulnérabilité?
Je crois que la vulnérabilité, c'est la seule vraie manière, dans mon regard en tout cas, c'est la seule vraie manière de créer un vrai lien de qualité avec l'autre. C'est lui dire voilà qui je suis dans toute ma vulnérabilité. Et je crois que c'est la seule vraie manière, si on recroche un peu sur mon dada qui est le couple, ici aussi de créer un vrai lien de qualité avec l'autre. C'est voilà qui je suis et du coup, tu peux aussi te permettre d'être qui tu es avec moi.
Si on s'autorise soi-même à être pleinement
ouais.
Les facettes justement qu'on choisit d'être aussi parmi toute la panoplie,
ouais.
Toute la boule, la facette,
Ouais.
La vulnérabilité, elle rentre dans le fait de s'autoriser à être soi et du coup, quelque part, que l'autre puisse, en voyant ça, en étant en interaction avec soi, prendre soi-même l'autorisation aussi à être soi.
C'est ça. C'est ça. Et j'aime bien donner cet exemple quand je suis dans mes accompagnements. Souvent, je demande aux gens, en réalité, si vous pensez à deux personnes différentes, une personne qui va vraiment plutôt vous montrer ses forces, ses réussites, etc., qu'est-ce que vous allez ressentir pour cette personne? Et on peut imaginer qu'on peut ressentir, par exemple, de l'admiration. Exemple. Par contre, si vous avez quelqu'un qui vient avec ce que j'appelle moi une vraie vulnérabilité, j'ai peur de telle chose. Si on est dans le domaine amoureux, ça peut être, écoute, j'ai besoin de te dire que je ressens quelque chose pour toi, j'ai peur de te le dire, j'ai peur de la réaction que ça va produire, mais etc. Comment vous allez réagir à ça? Et la plupart du temps, les gens vont me répondre, et je crois que c'est ce qu'on peut tous plus ou moins ressentir, mais ils vont me répondre, ça va me toucher. Et là, dans la vulnérabilité, en fait, on va toucher l'autre. Et dans la relation, alors on parle de relation de couple, moi je pense que c'est vrai aussi pour toutes les relations, en vrai, quand on va toucher l'autre, on crée une vraie relation avec l'autre.
On se connecte.
Et on se connecte, exactement.
C'est qu'on accepte d'être vraiment en lien. En relation avec l'autre quand on fait ça. Qu'est-ce qui fait peur dans la vulnérabilité? Qu'est-ce qu'on craint au fond à se dire OK pour être vulnérable?
Je dirais qu'on craint la honte et qu'on craint le jugement, en fait, de l'autre. Et parfois, on craint aussi le rejet. Si je me montre dans mes... Alors... Certains diraient dans mes faiblesses. Moi, j'aime pas tellement ce mot-là parce que, en fait, voilà, j'ai plutôt envie de dire dans mes failles. La différence que je fais, c'est que je pense que nos ombres ou ce qu'on peut appeler faiblesses sont parfois aussi nos plus grandes forces. Ça dépend pourquoi. Donc j'aime bien dire faille, mais en tout cas, si on se montre dans nos failles, ouais, ça peut faire peur. Oui, on peut avoir honte de dire quelque chose de pas très reluisant sur soi, enfin en tout cas qu'on ne trouve pas très reluisant. Mais encore une fois, c'est là qu'on va créer du lien. Donc ouais, je dirais la honte et la peur du jugement.
Donc les grosses craintes, se sentir faible, avoir honte, être jugé, et ce qu'il y a à gagner, la connexion réelle par rapport à qui on est et l'ouverture à la découverte de qui est l'autre vraiment.
Exactement.
Ouais.
Le vrai lien, quoi. Donc, ouais.
Et ces sujets, ils te touchent toi personnellement aussi. Comment tu les vis, comment tu les incarnes en pro et en perso?
Alors, je vais commencer à te répondre sur le côté perso. J'essaye toujours de me montrer le plus vulnérable, dans mes différentes relations. Je me surprends plein de fois, hein, parce que je crois que c'est normal aussi à pas y arriver. Je me surprends aussi plein de fois à, dans un conflit, par exemple, à essayer d'avoir raison. Alors que, en fait, je pense que quand on essaye d'avoir raison, dans une relation de couple ou autre, en fait, on joue pas pour la relation. On joue pour soi, en fait. Mais on se montre pas vulnérable, du coup, dans ce cas-là. Et c'est le moment où on va, effectivement, peut-être accuser l'autre de quelque chose. Donc, je dirais, c'est une attention de tous les jours. Le fait de pas y arriver, je pense pas que ce soit un problème, mais le fait d'avoir la conscience, de juste savoir s'observer, puis des fois de se dire, OK, là, j'y suis pas arrivée. Mais il s'est passé quoi pour moi? Donc moi, ça me renvoie toujours une question sur moi-même, en fait.
Ça t'amène à un retour à soi. J'étais en train de penser autrement dans le côté pro, dans l'accompagnement des femmes dans les relations amoureuses. Le fait d'être toi-même authentique et vulnérable, ça fait que t'es pas la coach qui réussit tout, qui a tout bon tout le temps. Ça permet de relâcher la pression pour les personnes que tu accompagnes et puis de ramener l'humanité, en fait, tout simplement. Avec les coups de génie, les coups d'éclat, et oui, les grandes réussites, et puis les foirages, les trucs un peu moins classe dans les zones d'ombre, et en fait, là où on a plein de choses à apprendre.
Ouais, ça me touche beaucoup ce que tu dis. C'est hyper important pour moi de me transmettre à la personne que j'accompagne que on est tous dans le même, on est tous dans la même histoire, quoi. On a tous des choses à avancer. Ça m'arrive souvent de partager des histoires personnelles, pas pour parler de moi, mais pour quand je sais que ça peut aider, par exemple, la personne que je suis en train d'accompagner. Ça me gêne pas de lui partager quelque chose que j'ai traversé qui est en rapport avec ce qu'elle traverse, par exemple. Mais pour aller plus loin, si on parle de vulnérabilité aussi, je trouve ça juste aussi de, par exemple, si quelque chose qu'elle me raconte me touche, de lui montrer que ça me touche, en fait. Donc, sans partir, évidemment, je veux dire, l'idée, c'est pas de prendre la place émotionnellement, c'est pas ma place, la place, c'est la personne que j'accompagne. Mais pour moi, c'est OK aussi de lui montrer que ça me touche ou de lui dire.
Ouais, ça me fait penser à des questions de posture, de positionnement en tant qu'accompagnante qui sont super importantes et je suis sûre que les personnes potentiellement qui nous écoutent peuvent se les poser aussi si elles sont également dans le bien-être, dans la relation d'aide, la santé pour accompagner les personnes. De se dire, mais où je place la limite, comment est-ce que je me positionne? Je vais pas raconter ma vie, des anecdotes, ça se fait pas, c'est l'autre personne qui est au cœur du sujet, en fait. Vraiment, c'est sur la personne qu'on est centré, pas sur mon nombril à moi, qu'est-ce que j'aurais à raconter. Et en fait, je vois qu'au fur et à mesure, dans ma pratique pro en tant qu'ostéo, au bout de 15 ans déjà, ça y est, je suis une vieille, je vois à quel point, en fait, je me suis donné l'autorisation d'oser raconter des choses qui ne sont pas complètement dans l'intime, mais qui viennent aider la personne à se faire une représentation parce que c'est une vraie histoire vécue et qu'elle peut aller trouver là-dedans ce qui lui correspond, ce qui la touche, et se raconter elle-même. Et ça, c'est un truc qui est venu avec le temps, et c'est quelque chose où, je dirais, a priori, dans le cadre des formations pour être aidant, soignant, accompagnant, on va dire non, faut surtout pas raconter sa vie. Et donc, c'est très dur de se dire comment je jongle avec le surtout pas, alors que je sens que la personne est touchée, que ça me touche. Quand une personne, effectivement, vient raconter une histoire qui est super émouvante, d'être ému. Mais comme tu l'as dit là tout à l'heure, c'est pas ton émotion à toi, accompagnante, qui va prendre le dessus. Et voilà, t'as une petite larme qui coule en même temps que la personne te raconte quelque chose, elle est là, quoi. Donc on compose avec.
Bah oui, puis rien n'empêche, on est dans une relation humaine avant tout, rien n'empêche d'expliquer ce que vous me dites, ça me touche parce que, ou j'en sais rien, ou pas, enfin je veux dire, ça dépend des moments. Mais de faire le choix, en tout cas, là aussi, de partager ça. Et si c'est un plus pour la relation qu'on appelle relation thérapeutique, relation d'accompagnement, enfin, peu importe comment on l'appelle, et je sais pas quelle est ton expérience à toi par rapport à ça, mais ce qui peut se passer dans un moment comme ça, je trouve que c'est absolument magique. Parce que là aussi, quand tu oses te montrer à l'autre, même si c'est pas ta place première parce que tu es là pour l'accompagner, mais si tu oses te montrer à l'autre, il ose aussi se montrer à toi. Ça crée de la confiance et voilà, là aussi, ça renforce le lien.
Comment t'as composé justement avec ce que j'amenais? Est-ce que ça a été une question pour toi de positionnement d'emblée dans les accompagnements? Est-ce que ça a été fluide de te montrer vulnérable et authentique? C'est venu avec des cas qui se sont présentés, pas des cas, enfin des situations qui se sont présentées et puis au fur et à mesure tu t'es questionné. Est-ce que t'as interagi avec d'autres pros pour dire tiens, en fait, qu'est-ce qui se passe quand il arrive ça?
Je pense à plein de choses quand tu me poses cette question. Mais la première chose que j'ai envie de répondre, c'est que je suis quelqu'un en fait qui a extrêmement de difficultés à pas montrer mes émotions. Donc déjà, partant de là, je crois que ça s'est un peu déjà présenté naturellement chez moi et que j'ai juste fait le choix de l'accepter. On m'a aussi beaucoup renvoyé que c'était comment dire? Finalement, c'était une force chez moi de pouvoir montrer mes émotions aussi facilement ou facilement, c'est même pas le mot, aussi juste naturellement. Donc j'ai décidé d'en faire une force et puis j'ai assez vite remarqué que justement, ça pouvait être créer de la magie aussi dans les accompagnements et je pense que mon chemin n'a pas été tellement pour répondre à ta question sur le fait de m'autoriser à le faire, puisque finalement, c'était là. Donc, autoriser juste simplement que c'était là et puis en prendre la force, en fait, de ça. Parce que finalement, c'est aussi moi et c'est aussi être authentique. Et pour moi, je ne peux pas demander à la personne qui est en face de moi de l'être si je ne le suis pas, en fait.
Appliquer ton propre conseil, l'incarner vraiment. Ça me fait rire ce que tu étais en train de dire parce que moi, avec d'autres mots, j'ai une facilité à dire que de toute façon, tout ce que je vis se voit sur ma tronche.
Je connais ça aussi.
Donc, c'est pas la peine de dire autre chose. Ça s'est vu, tout le monde le sait. Donc, autant adresser l'éléphant au milieu de la pièce qui a été bien repérable, mais du coup, s'en saisir pour composer avec et faire une pirouette joyeuse, en fait, avec ça. Et du coup, justement, contribuer à ce que l'autre puisse avancer. Tout à l'heure, dans ce que tu as dit, je me dis ça, c'est une clé, peut-être, justement, pour les personnes qui peuvent écouter, de dire à quel moment j'ai franchi la limite ou pas, et c'est OK ou pas dans la relation d'accompagnante. Potentiellement, ça peut être OK quand, en fait, c'est au service de l'autre. Quand ce qui est en train de se jouer est pour le bien de l'autre.
Oui.
Que c'est pas juste je me fais du bien en racontant mon truc perso et oui je suis authentique, je suis vulnérable, mais en fait non, c'est l'autre le centre vraiment de l'interaction, enfin dans ce cadre-là.
Ouais. Et donc tout réside dans l'intention en fait.
Et dans les relations de couple, avec l'authenticité et la vulnérabilité, L'intention, c'est la connexion réelle à l'autre.
Ouais.
Yes. T'as beaucoup parlé de magie. Pour clôturer un petit peu tout ce qu'on a évoqué, juste avant, je voulais te poser la question, est-ce que tu as des références ou des lectures ou des personnes qui viennent se saisir justement de ces sujets d'authenticité, de vulnérabilité que tu pourrais proposer, conseiller? Qu'est-ce qui peut te venir là en tête?
Alors moi, il y a un livre qui a changé ma vie par rapport à la notion de vulnérabilité. Ça s'appelle Le pouvoir de la vulnérabilité de Brené Brown. Et pour l'anecdote, c'est super drôle parce qu'en fait, ce bouquin, je l'ai acheté un jour, un peu au hasard. En fait, je sais plus, je crois que j'étais tombée dessus. Il était en promo. Enfin bref, j'ai pris ce livre. Il a dormi dans ma bibliothèque pendant 5 ans. Et quand j'ai fait ma formation de coach en intelligence amoureuse, il se trouve qu'il était au programme de ma formation. Et donc, je l'ai lu et je me suis dit, mon Dieu, j'avais un trésor caché dans ma bibliothèque depuis 5 ans. Donc voilà, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la référence à lire vraiment sur le sujet de la vulnérabilité.
Oui. Brené Brown,
Oui.
grosse référence. C'est une chercheuse américaine qui a écrit, a fait plein de recherches au sujet de la vulnérabilité, qui a partagé en fait à quel point ses recherches étaient impactantes sur son fonctionnement perso et qui a relevé le défi, parce que c'était pas du tout naturel pour elle, d'aller faire des conférences TEDx. Elle a des podcasts. Aussi, tous ces travaux sont vraiment une mine d'or sur ce sujet de la vulnérabilité et de l'authenticité. Donc, on peut trouver ça en vidéo sur YouTube, et même si elle est américaine, il y a des versions traduites. Alors, juste petite info, quand même, c'est un petit peu en version française les livres traduits avec les pieds. Donc, pour le coup, si vous êtes un peu bon en anglais, c'est quand même justement plus authentique d'avoir son écriture, son phrasé, son style qui est vraiment super agréable à découvrir.
Et regardez ces TEDx, c'est vraiment génial, quoi. Parce que justement, là, tu as vraiment aussi le. Si, comme moi, tu es obligé de lire en français parce que tu peux pas aller vraiment te permettre, parce que tu comprendras pas suffisamment bien. En tout cas, c'est une croyance que j'ai à propos de moi. Si on regarde les TEDx, on a vraiment justement l'essence de qui elle est. Et c'est magique. Et elle parle beaucoup de la honte, justement. Moi, ça m'a donné envie de dépasser ce truc-là, clairement.
On vous mettra hein, les liens là dans les textes qui accompagnent le podcast si vous avez envie de la découvrir. Mais en tout cas, à nos yeux, je pense que c'est une pépite. Et quand elle intervient, la magie apparaît. Je suis en train de faire ma petite transition, ni vu ni vu, pour la conclusion de notre podcast avec mes petites questions rituelles. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que la magie pour toi?
Alors, je pense qu'on en a finalement, on en a beaucoup parlé dans cet épisode. Le mot qui, pour moi, est proche de la magie, c'est l'émerveillement. Je trouve que quand... Il y a aussi dans mes sensations, ça fait aussi de la joie et du pétillement, la magie. Et je trouve que se laisser émerveiller par tout ce qui est...
Se laisser émerveiller par les petits instants capturés, les choses simples, les choses qui ont l'air anodines dans le quotidien, c'est...
Ouais.
Ouais, ça c'est pas...
Je pense qu'effectivement, ouais. Je pense que se laisser émerveiller par toutes les petites choses qui peuvent se passer dans le quotidien, juste savoir les regarder déjà, ça a beaucoup de magie et d'émerveillement. Et je trouve que dans les relations, il y a aussi énormément de magie. Quand, je sais pas, si par exemple, tout à l'heure, on parlait aussi de ce que nous renvoie l'autre, ça, je trouve que c'est absolument magique comment l'autre fait notre miroir. Et que si on est d'accord de regarder, des fois c'est confrontant, hein, la plupart du temps même, mais si on est d'accord de regarder, c'est hyper transformateur et je trouve qu'on trouve beaucoup de magie à cet endroit aussi.
Je viens avec la suite de ma question. Est-ce que tu as une baguette magique dans tes accompagnements pro ou est-ce que tu es attentive à ce que la magie puisse prendre toute sa place par elle-même dans ta sphère pro?
J'adore cette question parce que, en tout cas, sous ma casquette praticienne en hypnose, je dis souvent aux gens, j'ai pas de baguette magique. Parce que les gens croient des fois que l'hypnose, c'est de la magie, tu vois. Donc, ouais, bref. Mais du coup, ça me fait beaucoup rire ta question. Je crois que je serais plutôt sur ta deuxième proposition, c'est laisser opérer la magie. Laisser opérer la magie, du coup, dans la relation d'accompagnement et se laisser émerveiller. Et ça, c'est quelque chose, j'espère que je le garderai toujours. Se laisser émerveiller, justement, par cette magie qui va découler de la relation, par la transformation aussi. Je ne l'ai pas dit avant, mais voir quelqu'un se transformer, je trouve que c'est une magie absolument absolue. Et j'ai beaucoup de gratitude de faire le métier que je fais pour pouvoir observer ça tous les jours. Je veux dire, c'est incroyable. Donc ouais, laisser la magie opérer, c'est quelque chose que j'aime bien, même si j'ai envie de rajouter que avoir conscience de mettre de la magie dans notre vie, dans nos relations, dans nos accompagnements, perso, pro, enfin tout, c'est quand même important et intéressant. Et je pense qu'on peut créer de la magie chez quelqu'un avec un tout petit truc, avec une toute petite attention, avec un sourire, avec un regard empathique, avec plein de choses.
Donc, tu es une fourbe. Tu dis qu'il n'y a pas de baguette magique alors que c'est pas vrai, tu en as une.
C'est possible. On en a tous. En même temps, si je recoupe avec ce que je te disais au début, c'est important pour moi d'aider les gens à se reconnecter à leur magie intérieure. Donc, je pense qu'on en a tous, effectivement.
Voilà, c'est ça. C'est l'invitation. C'est bon, ok, j'en ai une, mais en fait, tout le monde en a.
Exactement.
La magie, elle est juste à observer, à voir, à découvrir à l'intérieur de soi et dans la connexion sincère, authentique, en acceptant ses parts de vulnérabilité à l'autre.
Exactement. C'est une bonne conclusion.
Ben, on a la classe ou on l'a pas. Hein. Comment je me la pète grave? Pas du tout authentique et vulnérable? Non. Bon, ça c'est parce que durant cette interview, pour le coup, peut-être que vous m'avez, vos auditeurs, moins entendu sur ce registre-là, moi j'ai joué le jeu d'authenticité et de vulnérabilité, d'incarner pleinement mon côté blagueuse, taquine.
Et je pense que ça fait bien partie de ta magie.
C'est complètement partie de moi, tout à fait. Ben, je te remercie vraiment, Amandine, de t'être prêtée au jeu un peu taquin de l'interview enchantée aujourd'hui et de nous avoir partagé vraiment ce qui tient à cœur sur cette thématique. Et puis, je vais mettre les petits liens pour qu'on puisse te retrouver pour justement découvrir ta baguette magique. Et tout ce que tu proposes.
Je te remercie, Diane. C'était un vrai plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi. Et merci de m'avoir donné l'occasion de le faire.
Avec grand plaisir. À très bientôt.
À bientôt.